On va commencer, parce que comme vous le savez, les tables rondes se succèdent jusqu'à 20h sans interruption, si j'ose dire. Heureusement, pas toujours avec les mêmes. Je vais d'abord vous présenter les trois personnes qui vont intervenir. Donc, à ma gauche, Loric Guillot, qui est l'un des, disons, des membres fondateurs d'Utopial à Nantes et qui est l'auteur de nombreux ouvrages qui ont trait au fantastique ou à la science-fiction. Plusieurs ouvrages sur les mythes américains, l'Amérique mythique. Plus récemment, des ouvrages sur l'Atlantide et King Kong, hein, donc l'histoire de King Kong. Et je crois que son dernier ouvrage en date est une analyse de Nouveau Monde de Terrence Malick. Voilà, et donc à ma droite, Denis Mélier, qui est professeur de littérature et cinéma de littérature comparée et cinéma à l'Université de Poitiers. Qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, j'en cite quelques-uns, donc l'écriture de l'excès chez Champion sur le fantastique, texte fantôme sur la littérature fantastique là encore, aux éditions Quimet, et les écrans meurtriers, donc sur le cinéma policier au sens large du terme, aux éditions du Céphale, également un ouvrage sur Sherlock Holmes, c'est le signe de la fiction, ENS édition. Et Daniel Tron, qui est en train de terminer une thèse de doctorat qui porte assez directement sur ces questions donc, d'univers plutôt pire que meilleur, d'ailleurs. Et donc, nous aurons l'occasion de reparler en particulier de ses auteurs de prédilection, notamment donc, Terry Gilliam, sachant aussi qu'un certain nombre de ses textes sont inspirés de Philip K. Dick, qui fait partie aussi des auteurs sur lesquels il travaille. Voilà. Alors, bon, c'est un sujet très vaste. On l'a intitulé de Metropolis à Blade Runner. Au départ, il y avait un titre un peu plus long. Bien entendu, et on pourrait dire que c'est presque disons une fausse piste, puisque après Blade Runner, il y a beaucoup de films, on pourrait dire une recrudescence de ce motif de l'univers dystopique, de la ville dystopique, etc. Mais ça commence très tôt au cinéma, et ça commence même avant Metropolis. On peut dire que déjà l'idée de voyage exploratoire dans des mondes inconnus et où on peut trouver des sociétés différentes de la nôtre, ça commence dès Méliès, hein, avec ses films d'exploration spatiale de 1902, 1904, etc. Mais les premiers films marquants, disons que c'est plutôt les années 20 et 30, en particulier bien sûr Metropolis que vous avez vu ici, La cité foudroyée ou encore Things to Come, hein, les choses à venir, d'après un roman d'Orson Welles. D'H.G. Wells, excusez-moi. J'aime bien Orson Welles, pardon. Il faut attendre les années 50 pour avoir, disons, une production plus régulière aux États-Unis, avec la vague de films qui tourne autour de la science-fiction, des extraterrestres, dont on reparlera tout à l'heure. Noterai aussi quelques films marquants dans les années 60, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion. Je pense en particulier à Alphaville, de Jean-Luc Godard, 1965, ou encore Fahrenheit 451, bien sûr La Jetée. Et puis le gros de la production hollywoodienne à partir des années 70-80, Blade Runner bien sûr, hein, 1982, une date importante, mais aussi Soleil Vert par exemple, mais aussi THX 1138, le premier long métrage de Lucas, etc. Donc des formes très... ces films, évidemment, donc il y a une traversée de l'histoire du cinéma avec des moments de creux et des moments de production plus importantes. Disons qu'on va essayer de ne pas avoir une approche chronologique, c'est pour ça que je me suis débarrassé de cette approche chronologique pour aborder plutôt une approche, disons, problématique ou thématique. Il y a des constantes dans cette histoire du cinéma, de cette représentation à l'écran de ces univers totalitaires, dystopiques. On peut noter d'ailleurs qu'il y a peu d'exemples de villes, de cités ou d'univers véritablement utopiques au sens de meilleur des mondes, hein, c'est plutôt les pires des mondes, donc on en discutera, il y a quelques exceptions cependant. On pourrait peut-être commencer aussi par évacuer la question de la, je dis ça, Denis va certainement réagir, de la littérature. Bien entendu, ces films sont souvent inspirés d'œuvres littéraires très célèbres, je pense en particulier donc à H.G. Wells, mais aussi George Orwell, Aldous Huxley, Philip K. Dick, Daniel Galouille et bien d'autres. Par contre, il y a des constantes, il me semble, et on va peut-être commencer là-dessus, sauf si vous avez des choses à dire par rapport à ce que je viens de dire. Outre donc les sources littéraires, pictural, etc. Mythique aussi, bien sûr, hein, parce que tout ça renvoie à des grands mythes comme le mythe de Babel, par exemple, qu'on trouve dans Métropolis. Il y a, il me semble, un aspect important qui est l'architecture, hein, puisque ce sont des univers souvent urbains, même si on va voir que ce n'est pas uniquement urbain. Et donc, il y a une constante architecturale, depuis Métropolis, bien sûr, dans Aelita aussi, de Rozanov, etc. Donc, j'aurais peut-être commencé par interroger nos trois invités sur cette question de l'architecture, de la mise en espace de ces mondes, de ces univers. Voilà. Donc, qui veut commencer ?
Vas-y. On va commencer par le... Bonjour. On peut commencer par le titre, hein, comme on a dit, Métropolis à Blade Runner. C'est pas... Il y a quand même un modèle qui se répète depuis le début, qu'on retrouve, qui est directement référencé, qui est le modèle effectivement de la ville dans Métropolis, et cette topographie de séparation de l'univers, de la société entre la surface et les profondeurs. Ça, c'est un... ça traverse entièrement, et le modèle de Métropolis reste hyper prégnant. Et c'est un modèle, là je suis pas le mieux placé pour en parler, mais qui est très très lié à l'expressionnisme au cinéma des années 20, et aussi au modèle de la ville du cinéma, du film noir. Hein, qu'on retrouve comme ça effectivement, qui se redit. On a donc cette même structuration de l'espace qu'on retrouve dans énormément de films, hein, jusqu'à des choses assez récentes. On retrouve encore la même chose dans 12 Monkeys, enfin dans l'Armée des 12 Singes. Et ce modèle justement de la ville, de Gotham, hein, de Gotham City, c'est-à-dire vraiment de New York sans les lois d'urbanisme de la fin des années 20, je crois que c'est 1919, hein, où ils ont passé cette fameuse loi à New York qui oblige en fait à avoir un retrait des bâtiments pour ne pas plonger la ville dans le noir. Et il y a un grand modèle de la ville, effectivement, qui est cette ville extrêmement verticale, qui n'est pas peuplée de la même manière partout. Et on retrouve justement cette idée à chaque fois, je veux dire, de cette ville et de cette société qui est extrêmement stratifiée, de cette projection de vraiment d'une société très 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 stratifiée dans l'architecture. Mais c'est un modèle qui est prégnant depuis Métropolis et qui est très lié à l'histoire du cinéma lui-même, puisque il est, on va dire qu'on a, il est certainement plus mis en avant dans le cinéma de science-fiction du fait d'une composante de fascination visuelle qui est très importante pour le cinéma de science-fiction, mais qui n'est pas tellement spécifique dans sa manière d'être organisée, il me semble.
Très bien. Laurie, je suppose que tu...
Oui, j'avoue que ce qui m'intéresse, à titre personnel, je vais répondre à cette question sur... pardon, bonjour d'abord. Je vais répondre à cette question sur la verticalité. Mais je pense que l'ensemble des interventions que je pourrais être amené à faire tourneront ou ramèneront toujours la question de l'articulation utopie-dystopie à la question politique, qui me semble absolument centrale dans ce type de sujet. Et je crois qu'effectivement, cette verticalité dont Daniel parle, elle a à voir beaucoup avec la fascination hyper-technologique que suppose cette verticalité, la construction, la possibilité de faire monter les choses extrêmement loin, extrêmement haut, et de construire justement des univers qui sont qualitativement différenciés entre une plèbe écrasée, et puis au-dessus, les couches, les classes, même si le mot est aujourd'hui pratiquement banni du vocabulaire politique, les classes supérieures qui dominent à partir d'une espèce de penthouse hyper technologique l'ensemble de la ville. Ce que je constate, c'est que dans le retour très contemporain, très récent de la question des utopies ou des dystopies, on est au contraire revenu à une sorte d'étalement du paysage urbain. Je pense au Fils de l'Homme, je pense à V pour Vendetta, qui sont des films qui, au contraire, substituent à la périphérie, au centre organisé de la ville politique, des périphéries qui sont les suburbs, les quartiers, les zones, les ruines, les friches industrielles. Je pense par exemple à la représentation assez sidérante, surtout quand on pense au contexte qu'on connaît aujourd'hui en France, des camps d'internement, des zones périphériques où on situe justement les corps étrangers ou ceux qui sont en phase d'expulsion. On les a vus apparaître dans le roman de Ronald Wright, publié récemment chez Actes Sud, c'est-à-dire une dystopie dans un futur très proche après un cataclysme écologique. On les voit dans Le Fils de l'Homme très précisément représentés. Il est très clair que les zones urbaines qui sont celles d'un film comme Le Fils de l'Homme sont travaillées par l'imaginaire de Sarajevo, c'est-à-dire l'imaginaire des ruines, l'imaginaire des cités urbaines à même pas une heure et demie d'avion d'ici et qui ont été livrées à la destruction. Donc je crois que cette verticalité qui venait directement d'un imaginaire SF produit par Métropolis s'est repolitisée par l'horizontalité, c'est-à-dire des rapports de force binaires qui sont plus orientés au bas, mais qui sont orientés par une autre forme de figure qui est celle de la contiguïté, c'est-à-dire que les dystopies dystopie contemporaine nous montre que ce n'est pas une classe au-dessus d'une autre, mais des classes côte à côte. Ce qui est une manière de rendre encore plus violente la coprésence dans un même espace cinématographique de données politiques extrêmement fortes. Donc je crois qu'il faudrait tempérer, ou en tout cas moduler cette histoire de la verticalité qui, d'un certain côté, est très frappante, très technologiquement frappante, architecturalement frappante, avec l'apparition au cinéma de ces zones interlopes, de ces zones de friche, de ces hangars désaffectés, de ces usines qui sont à l'abandon. Et on voit apparaître précisément dans le cinéma de la dystopie et dans les récits de la dystopie contemporaine tout cet univers urbain qui est un univers ruiné, qui est un univers défait, et dont, bien entendu, sont comptables les histoires qui nous racontent le fonctionnement socio-économique et sociopolitique des mondes économiques qui les ont produits. Donc je tempérerai cette construction-là par le caractère très actuel des représentations cinématographiques offertes dans ces films-là.
Je vais juste intervenir en disant que Denis a tout à fait raison. Quand je parlais d'architecture, évidemment, c'est la verticalité, mais aussi l'horizontalité. Il y a quand même un exemple antérieur au film dont tu parles. C'est tout simplement Alphaville de Jean-Luc Godard, où il y a déjà cette idée de gens répartis horizontalement selon des zones. Effectivement, ce rapport horizontalité-verticalité est tout à fait passionnant et se retrouve. Bon, je donnerai la parole à Loric après, peut-être.
Je pense à autre chose à ce niveau-là, c'est qu'on a déjà en germe, même dans Blade Runner, cette idée de la friche à l'intérieur même de la ville. Toute l'idée des bâtiments de Blade Runner, c'est effectivement que vu de l'extérieur, on a une ville qui s'étale déjà. Il ne faut pas oublier qu'il le déplace en fait. C'est pas le modèle de Gotham, mais on est à Los Angeles, qui est un des archétypes de la ville tentaculaire horizontale, avec une vraie perte des repères. On a déjà ces zones interlopes. Qui sont complètement, on a déjà une interzone très 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 postmoderne, avec le mélange des langues qu'on a au début, et puis on récupère quand même la tradition de l'esthétique des ruines, de l'esthétique gothique, c'est-à-dire vraiment de la fin d'une civilisation ou d'un bâtiment qui est vidé de sa substance. Dans Blade Runner, il est vidé de ses habitants. On a déjà ça en germe, effectivement, mais moins directement que dans Les Fils de l'Homme.
Non, je pense que Loric, pour intervenir sur la verticalité aussi, parce que c'est un de tes sujets de prédilection.
Oui, bon, il se trouve qu'en effet, je travaille un peu sur la verticalité en ce moment, c'est pour ça que je viens de m'asseoir, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas de construction utopique sans architecture, et il n'y a pas d'architecture pratiquement, surtout si on fait toute l'histoire de l'utopie, que nous ne ferons pas aujourd'hui. À partir du XVIe siècle, sans passer par la forme verticale. Je veux dire, la conception des mondes alternatifs se fait par la construction de mondes qui s'expriment par la verticalité. Et je pense que notre société actuelle, qui continue par l'art notamment, ou tout simplement par l'architecture, de concevoir des modèles alternatifs, ne sait pas, en fin de compte, à oublier ou veut ignorer que, en fin de compte, c'est peut-être pas la peine de chercher des modèles alternatifs, vu que nous sommes déjà dans l'utopie. C'est-à-dire, l'utopie a déjà triomphé, pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire, dans nos sociétés. C'est une chose que je rappelle souvent, c'est que notre société, en fin de compte, est véritablement conçue par des utopistes, et qu'on le veuille ou pas, c'est le résultat, en fin de compte, d'un long travail qui a commencé depuis très longtemps, peut-être même avant Thomas More. Toute construction verticale est aussi un besoin viscéral de s'exiler du reste pour construire quelque chose dans un champ qui n'est pas vicié, qui n'est pas pollué par la civilisation existante. Autre chose, c'est que toute verticalité est une construction spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'on monte, on descend le long d'un axe, et soit on monte vers le passé, soit on descend vers l'avenir, mais en général c'est plutôt le contraire. Quand on descend, c'est plutôt pour aller vers le passé le plus ancien, et en effet pour s'en extraire, et peut-être en effet la vision qui triomphe. Je pense aux skyscrapers, aux gratte-ciel américains qui vont envahir pratiquement tout l'espace imaginaire, également de la fiction, de la science-fiction, et n'est pas autre chose aussi que cette espèce de volonté tout à fait phalloïde, d'aller vers des hauteurs pour proclamer une sorte de sentiment de triomphe. Hein, toute verticalité est synonyme ou volonté de triomphe, volonté de pouvoir, volonté d'autorité. Hein, c'est le syndrome que vous connaissez bien en Amérique ou dans les pays anglo-saxons en général, de « room at the top ». Toutes ces notions sont évidemment tout à fait visibles dans le cinéma, qu'il soit d'ailleurs mainstream, pas forcément le cinéma de genre, mais le cinéma de science-fiction ou même le cinéma d'horreur. Ce qui me frappe, tout ce qu'a dit notamment Denis Mélier sur l'horizontalité liée à la verticalité est tout à fait juste, mais moi, il y a quelque chose qui me frappe dans les innombrables films que j'ai vus ces 20, 30, 40 dernières années, c'est qu'on n'échappe pas dans une dernière séquence au monde souterrain. Et donc, je ne sais pas si on s'écarte ou pas du sujet, mais je suis tout à fait frappé de voir que dans la moindre série policière même ou des films d'horreur assez connus, l'épilogue se situe toujours, tout le temps, pratiquement dans une sorte de souterrain désaffecté qui rappelle évidemment, pour ceux qui connaissent la bande dessinée canonique, l'univers de Jacobs, hein, c'est-à-dire, en fin de compte, nous descendons pour toucher du doigt ce que nous avons loupé, c'est-à-dire notre civilisation. Si des mondes possibles sont encore conçus par le cinéma de science-fiction ou par la littérature de science-fiction, c'est évidemment parce que notre monde est impossible. Et tout le cinéma, constamment, hormis même le cinéma de science-fiction, ne cesse de dire, en fin de compte, que notre monde est impossible et le seul fait d'échouer dans un sous-sol, dans un souterrain, dans une usine désaffectée, hors la vie, c'est attester en fin de compte l'échec, un échec patent, mais qui est tout de même source de création pour nous.
Merci Loric. J'aurais juste faire une petite remarque par rapport à ça. Il me semble quand même que dans un certain nombre de films de science-fiction, je pense à THX 1138 par exemple, Lucas, etc., ça se termine au contraire par une remontée à la surface, c'est-à-dire de remonter vers le monde tel qu'il a pu exister, le monde naturel, etc. Ça, il y a plusieurs exemples de ça. Mais c'est vrai qu'évidemment, cette question de la profondeur des souterrains, de la terre creuse, dans certains cas des mondes enfouis sous le sol, etc., on trouve ça extrêmement fréquemment. Tu parlais tout à l'heure d'organisation spatio-temporelle, c'est aussi une organisation sociale, bien sûr, hein, une hiérarchisation sociale qu'on trouve déjà dans Métropolis, évidemment, qui est le modèle qui va être suivi aussi. Voilà, donc moi, je voulais poser, enfin, vous pouvez réagir bien sûr sur ce que vient de dire Loric, mais je voulais poser aussi une question plus spécifique à vous deux, par exemple, c'est comment disons, dans quelle mesure le numérique, le morphing, etc., influe sur la représentation justement architecturale. Qu'est-ce que ça permet et quels sont les effets produits sur le spectateur, par exemple, si vous avez des choses à dire.
Oui, alors ça, c'est vraiment la question qui mobilise ou qui doit mobiliser la réflexion théorique sur le cinéma aujourd'hui, parce que, pour une raison très simple, on a peut-être tout à fait tort de parler de cinéma désormais, au moment où on passe au numérique, les outils d'analyse, voire les outils de perception des objets visuels qui nous sont donnés ne sont peut-être plus les bons. Un monteur numérique sait très bien que la notion de travelling arrière ou de zoom arrière n'a pas beaucoup de sens dès lors qu'on la pense en termes numériques. Donc nous sommes en présence d'objets nouveaux qui configurent des espaces imaginaires nouveaux et avec des possibilités qui sont peut-être radicalement autres. Sans compter qu'on a hérité au passage d'un beau problème ontologique, c'est-à-dire quel est le rapport qui existe entre un support argentique et le réel à partir du moment où il y a transcodage en une série de 0 et de 1 qui vient créer une médiation supplémentaire. Donc c'est vraiment la question qu'affronte la théorie du cinéma de façon économique chez certains et de façon extrêmement lourde et mobilisée chez d'autres. Alors il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que pourquoi le corpus absolument gigantesque des comic books américains n'a pratiquement pas été adapté avant les 5 ou 10 dernières années? Tout simplement parce que les formes technologiques de réalisation numérique des univers alternatifs proposées par la condition super-héroïque étaient intraitables. Pourquoi n'a-t-on jamais adapté, à part le Ralph Bakshi, qui à mon sens est supérieur, mais c'est un goût tout à fait personnel, au Jackson, hein, pourquoi n'a-t-on jamais adapté Le Seigneur des Anneaux? Tout simplement parce que s'il faut 10 000 figurants pour faire 10 000 orques, il y a un problème d'économie. famille du cinéma que résout définitivement la question du numérique. Donc on est en train d'aboutir à des nouvelles formes de spectacle, des nouvelles formes de personnages, des nouvelles formes de pouvoir, des nouvelles formes de vitesse de déplacement du corps dans le cadre. Pensez par exemple à ce que fait Sam Raimi avec le corps de Spider-Man et les difficultés que le cadrage a à maintenir un corps en mouvement à l'intérieur d'un espace urbain. Si vous reprenez les séquences, vous verrez que finalement le corps est toujours en avance sur le cadrage et que ça conduit Rémi à faire des pirouettes et des acrobaties parfois esthétiquement douteuses, que ce soit dans la profondeur de champ ou au contraire dans la latéralité. Donc un langage est en train de s'inventer pour le meilleur et pour le pire. Et je crois qu'effectivement là on touche du doigt quelque chose de très intéressant. C'est on a aujourd'hui une technologie de visibilité qui excède finalement dans son potentiel technique beaucoup de données imaginaires et qui permet de les réaliser. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la possibilité de faire ce qui était le fantasme d'Hitchcock dans La Corde, devient aujourd'hui une banalité. On peut faire 2 heures en plan séquence si on veut. Ça ne pose aucun problème technique particulier. Donc on est véritablement en train de reconfigurer une temporalité, de reconfigurer des espaces. On peut absolument concevoir que ces géographies imaginaires qui ont été celles de Piranèse, de Desiderio, de toute une tradition de la peinture, qui se heurtaient justement aux limites du trait et du dessin, sont en train d'éclater. Le problème, c'est de savoir quel type de cinéma peut avoir lieu à partir du moment où la question de l'utopie, de la dystopie ou de la dimension super-héroïque ne sera plus ramenée qu'à ce potentiel spectaculaire. C'est la raison pour laquelle je crois que le travail à mener sur la question de l'utopie ou de la dystopie est de revenir aux origines philosophiques, politiques, celles qui sont celles du XVIe siècle et d'autres, c'est-à-dire le moment où la question de l'utopie se pose comme lieu d'expérimentation fictionnelle d'une pensée politique alternative. C'est-à-dire que, bien entendu, le numérique va nous offrir des configurations somptueuses, mais ces configurations somptueuses sont aussi les leurres qui servent d'écran aux enjeux fondamentaux de ce que sont l'utopie, c'est-à-dire le retour au questionnement né d'une vision politique alternative, c'est-à-dire un travail sur ce que l'invention d'un futur qui peut être extrêmement proche, que l'on songe au Fils de l'homme, encore une fois, j'y reviens, c'est un futur presque immédiat, voire un degré du présent tout à fait proche. Et puis, V pour Vendetta représente un état du Londres contemporain qu'on reconnaît assez facilement. Donc, disons qu'il y a une tentation numérique extrêmement puissante, extrêmement attractive, mais qui a, à mes yeux, un potentiel de neutralisation de la question utopique très fort. Là où, au contraire, des stratégies de contournement, et qui passeront peut-être par le fait de récuser la facilité numérique, supposent d'en revenir à une interrogation éminemment frontale, éminemment politique, de construction de l'espace collectif, qui passe en langage cinématographique par le retour, j'allais dire presque têtu, borné, volontairement borné, à la question du champ contre champ, c'est-à-dire un sujet, un autre, un sujet, un autre, un sujet, un autre. Et je crois que sur cette question-là, il y a 2 films qui sont à la fois utopiques, dystopiques, si on veut, qu'on pourrait rattacher à nos corpus, qui illustrent magistralement cette opposition. La même année sortent Matrix et Existence. Matrix, un film entièrement construit sur la potentialité d'extension des univers numériques. Existence, un film qui refuse le numérique, sauf cette petite créature ridicule, si vous vous en souvenez, dans la scène de la station-service, et qui permet à Cronenberg de rappeler aux Wachowski et à tout l'univers économique qui est en train de s'annoncer que pour faire pénétrer le personnage de Ted Peikel d'un niveau du jeu dans un autre, il suffit d'un champ contre champ. C'est-à-dire la plus vieille figure du raccord hollywoodien, celle sur laquelle tout repose quand on a une conception et une exigence classique, qui est celle de Cronenberg, de la construction d'un rapport binaire entre un sujet et un objet. Il y a une grande séduction du numérique, qui est celle, bien entendu, de faire disparaître cette question du sujet et de l'objet, et qui, elle, philosophiquement, est une question essentiellement politique, justement.
Merci. Daniel, tu veux prolonger ou...
Pas vraiment. Je suis frappé par une chose en même temps, c'est qu'on a un développement incroyable de la technique qui pose plein de problèmes au niveau théorique, et pourtant, on a quand même une énorme impression quand on regarde, quand on aime, quand on lit de la science-fiction et qu'on la regarde au cinéma, qu'elle se renouvelle finalement beaucoup moins que ses outils. On a quand même une relecture assez hallucinée de ses anciens modèles. C'est peut-être ce qu'on appelle, ce qu'on a souvent tendance à dire, que le cinéma de SF a peut-être 50 ans de retard sur la littérature du même genre, et je pense que ça continue à être vrai, avec quand même une nuance en ce moment qu'on a bien avec des films qui passent vraiment très contemporains comme District 9 ou comme Moon, où là on a Moon notamment fonctionne énormément comme ça, sur un huis clos avec un personnage, avec ses possibilités de multiplication du même être, vraiment par des possibilités de montage très classiques, et notamment une scène assez frappante avec un effet vieux comme Méliès avec les deux personnages, je veux dire, sur l'écran, et pas du tout fait en numérique justement, et des choses comme District 9 avec vraiment un retour au réel, c'est-à-dire qu'on va renouveler le genre en lui réinjectant de la réalité vraiment, avec toute cette esthétique documentaire qu'on voit notamment très 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 bien dans Les Fils de l'Homme, et depuis oui. qui se développe beaucoup.
Merci. Oui. Tu veux intervenir ?
Oui.
Oui, d'accord.
Si c'est possible.
Bien sûr.
Merci, grand maître. Pour la, c'est tout à fait juste par rapport à la nouveauté. Qu'est-ce que le cinéma de science-fiction peut encore faire de nouveau ? Denis a très bien montré qu'en fin de compte, il y avait inflation technologique, appelez ça comme vous voulez, qui rend possible en effet toute la complexité des disons de grands classiques du genre, mais qu'est-ce qu'il y aura après ? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de l'hyper ? Parce que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que, en fin de compte, tous les thèmes, si on prend les 20 dernières années, des grands films des films intéressants de science-fiction, c'est exactement, hormis peut-être le problème du virtuel, hein, qui peut-être en effet a donné lieu à pas mal de choses, je pense qu'on y reviendra. Je pense tout de même que tous les thèmes qu'on a traités ces 20 dernières années sont des thèmes classiques, disons, de l'utopie et de la science-fiction, sauf qu'on ajoute hyper. Hein. Par exemple, l'eugénisme, on connaît, bienvenue à Gattaca, c'est de l'hyper-eugénisme. La surpopulation, on connaît, avec Soleil Vert, on fait de l'hyper-population. La prévention des crimes, on connaît, on va faire de l'hyper-prévention des crimes avec Demolition Man ou Minority Report. La répression, on connaît, on va faire maintenant de l'hyper-répression avec Robocop et la suite. Le communautarisme, on connaît, on va faire de l'hyper-communautarisme avec Strange Days. Bon, on pourrait continuer comme ça. Tous ces problèmes-là, en fin de compte, ne sont pas vraiment nouveaux. Disons qu'année après année, tous ces problèmes deviennent de plus en plus aigus. Et évidemment, le cinéma et la littérature de science-fiction sont censés les refléter avec une technologie accrue qui, évidemment, sont de plus en plus fascinantes. Mais en fin de compte, quand on regarde bien, on va vers l'hyper. Hein, l'hyper-marché de la science-fiction.
Alors, tu ne crois pas si bien dire avec l'hyper, on en parlera peut-être demain à propos de Ballard, mais quand Denis disait tout à l'heure qu'on était très proche finalement, enfin, qu'on se demande où est la science-fiction, ça pose ces problèmes des limites de la science-fiction effectivement, puisque on sait, dans certains textes de Ballard, on est dans une réalité quasiment, enfin, très très proche. Et donc justement la figure de l'hyper, du centre commercial, etc., dans le dernier roman de Ballard par exemple. Je voudrais revenir à des choses un peu plus, peut-être un peu différentes. On a beaucoup parlé d'architecture, d'urbanisme, etc., mais il se trouve qu'il y a aussi dans beaucoup de ces films, le rôle de la nature est intéressant, ne serait-ce que par son absence, par exemple. Donc, je parle de la nature au sens paysagère, hein, au sens de la végétation, etc. Mais elle joue toujours un rôle. Alors, soit effectivement comme une sorte de lieu utopique, effectivement, par exemple dans les rêves, soit comme une zone de refuge. Etc. Donc je pense qu'il y a évidemment certains cas spécifiques, je pense à Silent Running dont on va parler, où là encore on a une sorte d'utopie partielle réalisée autour d'un monde qui n'existe plus mais qu'on a reconstruit ailleurs. Donc je voudrais qu'on aborde un peu cette question de la nature, du rapport avec la nature tel qu'il s'exprime dans ce type de cinéma. Donc est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus ou pas? Sinon on passe à autre chose.
Non, on avait parlé à l'extérieur du modèle de la ville, de cette ville futuriste qui reste très prégnante. Souvent, on a effectivement des zones. On peut penser ne serait-ce qu'à la machine, à Time Machine, la machine à voyager dans le temps. Je veux dire, avec cette fausse utopie agraire à la fin, qui est très très appuyée dans la nouvelle version. C'est-à-dire qu'on redécouvre, voilà, et on en parlait, une espèce de modèle en fait de ravage. C'est-à-dire qu'on va au-delà du modèle de la ville, on va jusqu'au bout, au moment où la ville s'effondre, où ce modèle de civilisation s'effondre, et on a un retour à la Terre. Et on récupère en fait un imaginaire américain qui est très très prégnant, qui est le pays de ce paradoxe-là, avec des modalités un peu différentes. Donc on l'a à la fin déjà de la machine à voyager dans le temps, de manière très forte, avant de découvrir qu'en fait c'est pas du tout une utopie, hein, qu'on est revenu à des animaux et surtout à des proies, uniquement. Je pense forcément à Silent Running dont on parlait, avec justement ces trois cloches dans l'espace, hein, où sont conservés les derniers modèles de végétation, avec le dernier jardinier, le dernier gardien de cette nature-là, qui refuse justement la destruction, qui refuse de sacrifier la nature, et qui est le seul évidemment humain qui connaît encore le goût des légumes, qui connaît encore la végétation, et qui défend jusqu'à la mort en fait sa dernière, qui se perd finalement dans l'espace, qui défend la dernière forêt existante. Et je pense évidemment vraiment au type justement du hors-champ de la ville, de la nature, au contresens du premier montage de Blade Runner. Hein, où à la fin justement les producteurs voyant uniquement 50% de public content à la sortie, donc des projections test, décident d'aller chercher des rushs de Shining pour remonter en urgence une fin où justement il y a une possibilité d'échappatoire de la ville, de cette civilisation là et de la limite d'existence des androïdes dans un même pack, ce qui fait un contresens total, que ce soit en termes du discours du film ou en termes topographiques, c'est-à-dire qu'il y a justement cet univers étouffant de la ville, et on les voit qui s'échappent dans la montagne. Très content, et lui réalise une des choses que disait Dick dans ses romans qu'ils ont repris dans le film, c'est que si on ne fait pas d'androïdes femelles, c'est pour que les hommes continuent à avoir des humaines, parce que s'ils pouvaient avoir un androïde qui reste jeune pendant 80 ans, il y a peu de chances qu'il continue à se reproduire, et on a donc ce contresens total.
Oui. Voilà. C'est tout à fait juste, c'est très intéressant comme thème, le thème en fin de compte de l'échapper. On s'échappe, et beaucoup de films récents comme The Island, Dark City montrent cet effort de sortir de l'enfer, mais il y a plusieurs cas de figure. Quelquefois en effet on retrouve la nature originelle, la nature intacte, mais quelquefois on trouve la fin de la nature, c'est-à-dire que le monde justement est totalement virtuel parce que en fin de compte, il y a eu Apocalypse. Donc, en fin de compte, cette espèce d'alternative est tout à fait suspecte. Je pense à 1905, When the Machine Stops, quand la machine s'arrête, de Forster, qui est une des premières utopies verticales, où, en fin de compte, quelqu'un pris dans un univers machinal ou machinique de totalitarisme, et où on s'échappe vers le haut, bon, c'est tout à fait positif, c'est tout à fait optimiste, hein, on s'échappe vers la nature. Mais c'est l'exemple que tu as pris est tout à fait saisissant, c'est-à-dire que pratiquement une des premières utopies pastorales, contre-utopie pourrait-on dire, dans La machine à explorer le temps, montre en fin de compte l'écologie sous un voile totalement dévoyé, parce que c'est un monde évidemment de retour à la nature, mais avec des gens totalement abrutis. Le monde des Elohim est totalement abruti, c'est-à-dire qu'on a le droit soit en fin de compte au paradis de la surface avec des gens complètement idiots, soit au monde de la terreur des Morlocks en bas. L'enfer et le paradis sont pratiquement aussi dévoyés l'un que l'autre. C'est évidemment, c'est assez étonnant d'ailleurs de montrer Wells en général sous cet aspect optimiste, en fin de compte, parce que sa première grande œuvre est tout à fait pessimiste. Là, il y a un contresens total. On pourra parler de la guerre des mondes plus tard, mais enfin, ça me semble clair.
Oui, sur cette question de la nature, il y a effectivement tout ce que tu viens de dire, le fait qu'elle peut finalement être rédemptrice, on peut refonder quelque chose, on peut sortir du lieu infernal de la civilisation et retenter une nouvelle fondation. Bon, c'est des paradigmes que le fantastique ou le western d'ailleurs utilise énormément, hein. On sort de l'enfer de la communauté pour relancer l'histoire et espérer qu'elle soit, cette fois-ci, elle ne sera pas à ce point décevante. Mais ou alors au contraire, effectivement, la destruction a eu lieu et c'est le petit moment théorico-baudrillardien de Matrix, Welcome to the Desert of the Real, etc. Bon, mais je crois qu'il y a aussi d'autres choses qu'il faut peut-être rappeler. D'abord, l'utopie originellement a à voir avec la nature et avec le thème de l'isola, de l'insula. Chez Moore, c'est une île, c'est un lieu autre et voisine une société agraire, une société pastorale, une société politique. Donc il y a une construction qui est plus large que ça. Le thème de l'isola ou de l'île est également le thème de la confrontation du sujet à une utopie ou à un lieu où il peut tout recommencer, mais où il est la plupart du temps seul avec lui-même ou en très petites unités, une petite équipe, un équipage échoué, etc. Donc il s'agit de recommencer la vie, de recommencer le monde. Et là aussi, l'utopie est alors saisie dans une autre dimension. C'est pas une construction politique qui est donnée, c'est une construction politique à faire, à produire, à réinstaller, avec l'expérience qui consiste justement à refonder de manière radicale celle de l'égalité, par exemple. Il y a beaucoup d'utopies, ou en tout cas de romans post-apocalyptiques, ou de films post-apocalyptiques, qui posent le problème de quelle société produire, c'est-à-dire comment garantir l'égalité, comment garantir le partage des ressources, le partage de la nourriture, le partage de l'énergie, etc. Donc en fait, l'utopie post-apocalyptique a ceci de particulier, qu'elle requiert un questionnement sur le vivre ensemble qui est en train de disparaître, ou en tout cas qui est réglé dans la société libérale autour d'une aporie qu'on connaît et qu'on ne développera pas ici. Il y a une autre version qui, moi, m'a beaucoup frappé en voyant le film, que je trouve un chef-d'œuvre, un sommet de cinéma réactionnaire, c'est Le Village de Shyamalan. Il y a une possibilité, c'est de sortir de l'histoire, effectivement, et de bloquer le XXe siècle dans une crispation puritaine qui est celle de la Première Amérique. On peut effectivement vivre cette question-là en répartissant l'espace entre un espace terrifiant, gothique, excessif, dangereux, couleur rouge, et puis un espace sécurisé, pour ne pas dire sécuritaire, couleur jaune. Donc il y a cette version-là. Et puis il y a une troisième, je crois, qui peut être aussi intéressante d'évoquer à propos de la question de la nature, et particulièrement à Nantes, quoique la polarité nantamien est toujours un peu compliquée à propos de Jules Verne. Mais c'est que effectivement, s'il y a un grand écrivain qui a vraiment pensé ce problème du retour à la nature et de la confrontation de la modernité positiviste à la nature, c'est vraiment Verne. Bien sûr, je pense à l'île de Nemo, je pense à l'alternative que représente la construction d'un dispositif qui est à la fois technique, écologique, politique, etc. Mais je pense surtout à un autre texte qui m'a toujours beaucoup frappé autour de cette articulation entre savoir et nature, c'est-à-dire entre histoire et mythe. C'est celle qui est racontée, la fable qui est racontée dans Le Voyage au centre de la Terre. Les positivistes, dernier degré de l'humanité, forme absolument géniale de l'humanité rationnelle, qui débouche au fin fond de la caverne pour découvrir le Protée des abîmes, c'est-à-dire la figure virgilienne, grandiose, extraordinaire, plus forte que tout, sublime, dit le texte, et qui vient montrer en fait que la génération de la modernité sont des avortons au sens propre. C'est-à-dire une génération seconde, une génération qui vient après. Et qu'à l'origine, il y a la grandeur, la nature, le mythe, l'origine, et que cette histoire humaine qui a produit finalement le désastre positiviste se confronte de plein fouet à la grandeur de l'origine, qui est cette figure tutélaire géniale et gigantesque dans laquelle, bien entendu, Verne concentre tous ses effets romanesques. Donc je crois qu'effectivement, la nature est un contre-champ très intéressant de l'imaginaire dystopique ou utopique, mais que les valeurs de la nature dans ce conflit à un univers urbain et contemporain sont extrêmement sont en tout cas nuancés catégorie par catégorie, éventuellement, comme le disait Loric, identité nationale par identité nationale, parce que la question de l'Amérique, effectivement, est très très spécifique sur ce problème du rapport à la nature et de la ville.
Merci Denis. Donc moi, on aurait pu donner un autre exemple. Tu parlais de petites unités qui luttent contre un système totalitaire. Et bien sûr, il y a Fahrenheit 451. Les hommes libres se réfugient dans la forêt. Donc c'est un espace refuge aussi. Il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on pourrait aborder. Donc par exemple, la question du pouvoir totalitaire lui-même, dont on n'a pas encore parlé. Donc de multiples exemples, 1984, Brésil, etc. Bien sûr, Métropolis. Et peut-être aussi quand même une figure qu'il est difficile de contourner, c'est celle du savant, de l'ingénieur qu'on trouve dans Things to Come par exemple, dans Métropolis aussi sous la forme d'un savant fou, Rodvang. Le rapport d'ailleurs à ce niveau entre la modernité et l'archaïsme, je pense à Métropolis. Donc cette figure du savant et qui est souvent au service du pouvoir, enfin, qui peut être aussi éventuellement déviant, mais qui est souvent manipulé ou au service du pouvoir. Est-ce que vous pouvez faire quelques aperçus rapides sur cette question du savant, de l'homme de science, de la science au service du pouvoir politique?
Moi, comme je travaille là-dessus... C'est tout de même assez extraordinaire de penser qu'en 1864, on envoie des savants au centre de la Terre, d'ailleurs ils n'y arrivent jamais, des savants, la communauté savante, on envoie la raison au fond du puits. Mais ça va avoir des conséquences mais gigantesques sur l'histoire de l'univers, sur l'histoire de l'univers fictionnel, sur l'imaginaire occidental, parce que les nouvelles sciences du 19e siècle sont des sciences de la profondeur. Et en ouvrant les profondeurs, en fin de compte, on ouvre la bouche d'ombre, on ouvre les enfers. Et depuis qu'on a ouvert les enfers, et ça intéresse évidemment tous ceux ici qui s'intéressent à la SF et également au fantastique, on fait revenir du centre de la Terre toutes les créatures des origines. C'est-à-dire ce qui était, enfin je vous renvoie à Lovecraft par exemple, qui est à la confluence du fantastique et de la science-fiction, mais je pourrais trouver d'innombrables exemples. Mais l'archéologie, la paléontologie, la spéléologie, toutes les nouvelles sciences du 19e siècle n'ont pas d'autre effet que de réveiller les morts. Et si les morts reviennent en force aujourd'hui, que ce soit les morts vivants, toutes les créatures de toute l'histoire de la mythologie, que ce soit bien sûr les fantômes, les zombies, les morts vivants, etc., c'est parce que la science les ont réveillés au 19e siècle. Alors peut-être on s'écarte évidemment du sujet en disant ça, mais ça me semble très important par rapport au débat sur l'origine, en fin de compte. Hein, cette verticalité hein, qui est au centre même, qui articule l'utopie, c'est en fin de compte une machine satanique. C'est une machine très très dangereuse. Il faut la manier avec soin. Ah, certes, on peut tout approfondir, tout explorer, tout asséché par la connaissance. Mais attention, qu'est-ce qu'on va déterrer? Et depuis qu'on déterre les choses, en fin de compte, tout ça nous revient en pleine tronche. Ça, c'est évident. Tout le cinéma nous le dit depuis 100 ans.
Merci.
On en parlait tout à l'heure, je vais avoir l'air d'être très pessimiste sur le cinéma de science-fiction, mais c'est vrai que sur la figure du scientifique, j'ai deux choses. Le cinéma a du mal à sortir de la figure du savant fou.
Parce que c'est devenu un pléonasme.
Il y a cette idée-là. Il y a un rapport en ce moment qui, à mon avis, tout à fait, qui dépasse le sujet, mais qui est tout à fait ambigu à la science, qui est assez intéressant. Mais sans aller jusque-là, le cinéma a effectivement du mal à aller au-delà de cette figure du savant fou. En général, la figure du créateur. Je vais prendre un exemple qui, pareil, est à contresens du texte, mais on prend Minority Report. Le système, qui est un système totalement efficace. Le système, ils l'ont mis en place, il y a 98% de morts en moins. Le taux de criminalité, il n'y a plus personne qui meurt de crime. C'est un système qui marche super bien. Mais il est mauvais. Parce qu'il repose sur un crime affreux de celui qui l'a mis en place, hein, qui a osé lui commettre un meurtre. Donc, si on reprend ce qui se passe à la fin du film, qui a l'air d'être une super appienne, on libère les gens. Oui, mais on ne met pas en place un système qui fait baisser de 98% le taux de mortalité dans un pays. Ce qui veut dire, si on réfléchit une minute, sachant qu'il y a entre à peu près 13 000 morts par arme à feu aux États-Unis par an, que le système va causer, pour que Tom Cruise soit un héros, 13 000 morts de plus par an à la suite du film. C'est quand même assez intéressant. Mais il vaut mieux que ces gens-là meurent, parce qu'ils vont mourir, les 13 000 personnes vont mourir libres, plutôt que d'éviter qu'il y ait des meurtres à cause d'un système scientifique qui repose sur un meurtre. Ce serait mal. On sort assez difficilement de cette figure-là, ce qui est dommage. Et il y a une autre chose qui est quand même frappante au cinéma, c'est que le parent pauvre, en termes de sous-genre de la science-fiction, le parent pauvre au cinéma, c'est la hard science. On n'a pratiquement aucun film de hard SF. Il y en a très très peu. Celui qui correspond le mieux, on a eu l'occasion de parler, c'est quand même l'adaptation Destination Moon de Heinlein dans les années 50, qui est à peu près un des seuls qui tient jusqu'au bout son principe de hard science. C'est où justement on sort d'une espèce d'explication pédagogique, on va avoir un grand passage pédagogique pour nous expliquer ce qui va rendre possible techniquement l'intrigue. On sort mal du modèle de Star Trek, on va dire. Hein. On peut téléporter des gens. En physique quantique, il y a un petit principe d'incertitude qui nous empêche de téléporter des gens. Donc on crée un compensateur d'Heisenberg. Ça marche comment? Très bien, merci. Et on va pas aller plus loin. Et c'est vrai quand même au niveau de cette figure du scientifique, on sort assez mal des archétypes, déjà assez anciens. Et voilà, on a très peu de hard SF du coup et de vrais scientifiques dans le cinéma de SF.
Bah, peut-être parce que la hard SF a échoué aussi.
Parce qu'ils ne l'ont pas encore adapté. Quand on parlait de possibilités techniques du cinéma qui arrive, moi j'attends que ça. C'est que maintenant, on peut adapter Heliconia. Ça y est, on peut. On a les outils techniques. Effectivement, c'était difficile il y a encore 20 ans. Ça aurait été ridicule. On peut adapter du Forward. On peut faire des grands systèmes planétaires. On peut le faire maintenant. Mais on ne fait pas ça. On continue dans une veine. On reste sur les genres établis. On ne prend pas de risques. Même si ça coûte moins cher, on continue à. Avec quelques exceptions. Comme je dis cette année, j'ai vu deux films de SF à la suite qui m'ont plu, ce qui est extrêmement rare. Hein, il y a eu District 9 et Moon. Les deux m'ont énormément plu. Mais on va pas encore. On retourne pas dans l'espace sur ce modèle-là.
Merci. Non. Il y a deux questions avant de vous donner la parole, qu'on va évoquer peut-être très brièvement. Je dirais, il me semble que beaucoup de choses tournent autour de la porosité entre deux frontières dans ce type de cinéma. la porosité entre l'humain et l'non-humain, le non-humain, hein, c'est-à-dire que par exemple dès effectivement Métropolis, on a déjà la robotisation, la mécanisation de l'humain, la déshumanisation et la mécanisation, mais on a aussi la figure bien sûr de l'androïde, hein, comme vous savez. Et puis l'autre, on trouve ça évidemment après avec Blade Runner, avec Robocop, etc., et plein d'autres, Terminator, etc., c'est un autre problème. L'autre frontière qui est encore plus fondamentale, en quelque sorte, on a évoqué Matrix, c'est la porosité de la frontière entre la réalité, l'univers réel, et l'univers virtuel. Donc la présence des simulacres, par exemple, dans les films de science-fiction contemporains, me paraît absolument fondamentale. Alors sur ces deux questions, est-ce que vous avez quelques remarques, avant donc de donner la parole au public? Je sais que c'est rapide en 5 minutes, mais bon.
Sur la notion de totalitarisme, je crois qu'il y a quelque chose peut-être d'aussi dangereux que le totalitarisme, c'est la démocratie qui continue de se donner comme modèle, alors qu'en fin de compte, elle est devenue totalitaire. Et ça, il faut se méfier des utopies, comment dire, de science-fiction qui continuent, là encore, de dire « Oh là là, les méchants qui sont évidemment à l'extérieur ». Mais en fin de compte, ça nous empêche de remettre en cause notre propre modèle. Notre propre modèle démocratique, nous disent tous les films depuis longtemps, c'est en fin de compte des modèles de tyrannie. Mais la tyrannie depuis 1984, et ça Orwell a eu un coup de génie avec le mythe de Big Brother, c'est que cette tyrannie se fait au nom du grand frère. Big Brother, c'est-à-dire que ce grand frère, on le respecte parce que c'est notre frère. Et donc la fraternité permet en fin de compte les pires des saloperies. On n'est pas sorti de ça. Et je crois que le cinéma de science-fiction devrait réfléchir aussi en fin de compte à une certaine forme d'auto-analyse, d'auto-critique. Souvent, au lieu de dénoncer des univers totalitaires ou d'autres formes de vie totalement extérieures et qui sont censées être malveillantes, je pense aux aliens, etc., dont on reparlera tout à l'heure, eh bien, en fin de compte, on ferait peut-être mieux de s'intéresser à notre propre modèle, de notre propre mode de fonctionnement qui, en fin de compte, qui ressemble étrangement à ce que les premiers utopistes voulaient dénoncer.
Merci.
Il y a quand même un truc qui le fait très bien, c'est Le Prisonnier, qui est exactement autour de ça. Pour ceux qui n'ont pas vu
tout
le dernier épisode, je ne vais pas révéler, ce serait dommage, mais Le Prisonnier tourne entièrement autour de ça.
Une autre forme de village, mon cher Denis.
Oui, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a deux manières d'envisager les choses quand on parle de ces questions d'utopie, dystopie. D'abord, il y a un troisième terme, je crois, qui devrait être ajouté immédiatement et serré, tissé avec ces deux notions. C'est la question de l'Uchronie, qui est une autre manière, effectivement, de produire des dispositifs alternatifs, cette fois-ci sous forme historique, mais qui très souvent ont des conséquences, effectivement, qui consistent à interroger ce que serait devenu l'histoire si tel ou tel paradigme avait été dominant. Donc, on peut poser ce tressage des trois notions à l'intérieur des catégories générique qui serait celle de la science-fiction ou du fantastique avec toutes leurs différentes chapelles, etc. Mais on peut aussi voir qu'au moment où la science-fiction développe des dystopies, il y a d'autres formes littéraires ou d'autres courants qui ne relèvent pas de la science-fiction à proprement parler, qui sont absolument antérieures au 1984 d'Orwell. Je pense à L'aérodrome de Rex Warner, qui est un roman absolument extraordinaire qui montre comment l'installation d'une base militaire, d'un aérodrome en plein cœur d'une petite région rurale anglaise va produire une construction fasciste. Il y a le roman de Sinclair Lewis, C'est arrivé ici, hein, It can't happen here, disait-il, c'est-à-dire véritablement comment l'Amérique... C'est un roman qui est écrit en 1935. Hein. Comment l'Amérique bascule dans un monde fasciste pur et dur. Et le livre de Philip Ross, Un complot en Amérique, qui doit remonter à 5 ou 6 ans, est une reprise, est un décalque du livre de Sinclair Lewis. Donc il y a tout un pan de la littérature, j'allais dire, non marqué génériquement, qui entretient de façon très très forte avec les univers de science-fiction ce type de construction, d'interrogation éminemment historique et politique sur les dérives, effectivement, des démocraties, puisque dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le cas du roman de Sinclair Lewis ou que ce soit le cas du roman de Rex Warner, il n'y a pas eu de putsch, il n'y a pas eu de coup d'État, il y a eu des élections. Hein, et il est bien évident que quand Lewis écrit en 1935 ces élections démocratiques qui ont conduit le fascisme en Amérique, il a un modèle qu'il faut encore rappeler, celui des élections qui, en 1933, conduisent au pouvoir le chancelier Hitler. Donc, je veux dire par là que, bien sûr, la science-fiction offre des modèles spectaculaires de dystopie. Mais il y a des formes qu'il faudrait, j'allais dire, lire en parallèle autour du grand sujet qu'est la dystopie, l'utopie, et d'aligner d'un certain côté les formes, j'allais dire, réalistes ou non science-fictionnelles de la question dystopique. Je pense par exemple à W ou le souvenir d'enfance de Perec, hein, qui est un très grand texte sur ce que sont les univers dystopiques et qui le rattache par une construction très, très complexe aux univers totalitaires. Donc je crois que si la question de l'utopie ou de la dystopie est posée en tant que telle, elle doit être desserrée. Il n'y a pas de privilège, voilà, je vais le dire autrement, il n'y a pas de privilège de la SF à poser la question de la dystopie. Voilà. Et il y a des formes politiques et des formes littéraires extrêmement puissantes qui traitent de ces questions-là. Et quand on lit Rex Warner et Sinclair Lewis, alors on se rend compte que le roman d'Orwell appartient beaucoup plus à cet imaginaire de la littérature politique de, disons, l'entre-deux-guerres et du lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'il n'appartient véritablement à la science-fiction.
Ou au roman postmoderne aussi.
Au roman, oui. Alors, on a commencé par dire que la littérature était à la base, et le mythe aussi, et on termine sur la littérature avant de vous donner la parole, parce qu'il reste quelques minutes, donc si vous avez des questions, posez aux intervenants. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qui ont été abordés. Oui ? Allez-y. Ah, pardon. Non, c'est bon, vous pouvez parler.
Oui, donc vous avez commencé en parlant de l'origine de l'utopie et la nécessité peut-être de retourner à une origine de l'utopie avec donc Thomas More, etc. Ce que je me pose comme question, c'est si aujourd'hui dans la littérature et la littérature générale aussi bien que la littérature de science-fiction, l'utopie correspond encore au modèle initial. C'est-à-dire par exemple, normalement on fait un voyage, on arrive dans une société hyper structurée qui cherche le bonheur collectif. Or, aujourd'hui, l'utopie, le voyage n'est pas forcément obligatoire. Quand on voit les fils de l'homme, il n'y a aucun voyage. Et l'utopie n'est plus collective, mais beaucoup plus individuelle. C'est-à-dire qu'on va chercher le bonheur individuel, ce qui serait un autre idéal, et un idéal qui correspondrait plus à notre temps. Et je voulais relier à ce que vous avez dit sur la figure de la contiguïté, qui me semble extrêmement importante, parce que, justement, enfin, l'utopie, on se déplace, on sort de notre cadre, on crée une métaphore d'une société, alors que maintenant, on va plutôt créer des métonymies de nos sociétés beaucoup plus proches. Donc, je voulais savoir, au cinéma, quel film, à part Les Fils de l'Homme, pourrait représenter ça ? Parce que, en littérature, oui, mais au cinéma, beaucoup moins. Voilà.
Ah, t'as un autre micro ?
Sur la première partie de la question, oui, je crois que vous avez raison. C'est-à-dire que si on fait une typologie des textes utopiques, il y a effectivement le motif du déplacement, le lieu autre, ce que l'étymologie du terme dit. Il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du bien-être collectif, c'est-à-dire du souci d'une législation, en fait. C'est-à-dire de l'ordre d'une organisation extrêmement complexe que le texte prend souvent en charge de décrire. Il y a littéralement le vieux regard du persan, pour repasser à Montesquieu, c'est-à-dire voir à travers le point de vue étranger, etc. etc. Or, aujourd'hui, les films de SF au sens large du terme, qui se frottent à la question de l'utopie, ne sont pas du tout dans ce paradigme-là. Le monde est un donné, il y a une sorte de dégradation historique majeure qui peut être due à la surpopulation, à la catastrophe écologique, etc. Et qui fait qu'on est dans une démocratie pervertie, c'est-à-dire dans une démocratie qui est devenue archi-communicationnelle avec tous les rouages d'illusions, de simulacres, etc., soit dans un univers totalitaire au sens où on les connaît. Et la rédemption possible qui est décrite dans ces films-là provient soit d'une société de résistants, c'est-à-dire d'une sorte de contre-monde, hein, soit alors effectivement d'initiatives, alors vous les dites encore subjectives, individuelles, privées, comme on veut. Donc ça, je crois que sur le diagnostic des scénarios, effectivement, il y a ce mouvement de disparition du champ collectif de l'utopie et de restitution d'une aventure privée, hein, qui est peut-être capable de rédimer à un moment donné la donne collective. Sur la question, donc je partage le diagnostic avec vous, effectivement, je crois que globalement ce scénario va dans ce sens-là. En revanche, sur les questions qui sont celles, effectivement, de la métaphore et de la métonymie et de leur usage cinématographique, je crois que quelque chose qui est réussi dans le film des Wachowski, adaptant Alan Moore et Lloyd, alors que globalement leur travail a totalement ignoré la dimension strictement graphique du travail de la BD, il y a par contre une chose qui irait dans le sens de votre remarque sur la métonymie, c'est leur utilisation de la problématique du théâtre, et de la problématique du masque et du simulacre. C'est-à-dire effectivement l'idée que le visage de V, effectivement, n'est pas là pour être donné pour la métaphore de quelque chose, hein, c'est-à-dire d'un signifié positif, d'une révolution, d'une libération, d'une analyse politique, qu'il ne fait d'ailleurs pas, mais qu'elle est effectivement un corps métonymique qui n'a de fonction que de déclencher la scène finale où l'ensemble des personnages, l'ensemble des citoyens sont revêtus du masque. Donc en ce sens-là, effectivement, on aurait une figure qui serait plus de l'ordre de la métonymie, c'est-à-dire l'un pour tous, au sens strict, que la métaphore de l'action politique que le comédien refuse de prendre à sa charge, puisque le coup de force, à mon sens, du scénario de Moore est précisément qu'il n'y a pas de justification idéologique extrêmement articulée par le personnage. Donc voilà peut-être un exemple, mais il est ténu, hein, on tient sur une figure. Hein. Mais globalement, je partage tout à fait votre diagnostic.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur ?
Bonjour. Alors, au rayon de ces fausses utopies, disons ces fausses démocraties dont on parlait avant, qui deviennent abusives, je me demandais par rapport à un certain film où justement, finalement, on donne presque raison d'une certaine façon à ça, c'est Starship Troopers, où à la fin, les gens se complaisent finalement dans cette espèce de mensonge présenté et de cette vie idéale avec des gens magnifiques, des lieux magnifiques, des transports en commun, ce genre de choses. Alors je ne sais pas, est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on est presque plus dans une dictature dans la mesure où il y a une manipulation par l'image, ou est-ce que c'est finalement le peuple qui se manipule lui-même ?
Le problème est vaste. Par rapport à votre question, par rapport aussi à la question précédente, il ne faut pas oublier quelque chose qui me semble absolument fondamental pour comprendre l'utopie. L'utopie, dès 1516, est entrevue collectivement. C'est-à-dire que, curieusement, on se demande si toutes les entreprises de libération depuis, en fin de compte, Thomas More, ne consisteraient pas à fuir l'utopie. L'utopie, c'est pas un hasard, hein, si Marx s'est intéressé à l'histoire des utopies socialistes, c'est parce que l'histoire de l'utopie, c'est l'histoire, en fin de compte, du communisme et du socialisme, hein, ou de tout, malheureusement, il faut bien le dire, de tous les totalitarismes. Le problème de l'utopie, c'est que l'utopie est incapable d'étudier l'homme, de mettre l'homme, en fin de compte, en individu, au centre d'une société. Le drame de l'utopie, c'est que l'utopie a forcément une vue totale du groupe, une vue globalisante. Et on se demande, en fin de compte, moi, je me répète d'une certaine façon, je pense que la faillite de notre civilisation, c'est justement d'avoir choisi le modèle utopique. Il lui fallut choisir le modèle contre-utopique. C'est pour ça que je me sépare un petit peu de ce qu'a dit Denis tout à l'heure, l'utopie étant en fin de compte l'isola dans la nature. Non, en fin de compte, dès le départ, l'utopie se projette comme ville insulaire, où pratiquement il n'y a pas de lieu pour, comment dire, de lieux qui sont consacrés à la nature. En fin de compte, les seules et rares tentatives pour échapper à l'utopie, c'est les utopies bucoliques des 68 heures dont je suis. Hein. C'est vrai, les communautés hippies, c'est en fin de compte pas du tout de l'utopie comme on tente de le faire à croire, mais totalement, en fin de compte, là, une des rares tentatives historiques d'échapper justement à cette emprise gigantesque du grand État. Woodstock a été, en fin de compte, une réussite totale parce que, d'un seul coup, des millions de gens se sont retrouvés dans un état de liberté, mais, en fin de compte, sans avoir rien, aucun compte à rendre au grand État. Il n'y avait que des individus. Il n'y avait ce jour-là, il n'y avait pas des millions et des millions de gens qui étaient en train de se prosterner devant quelques dieux étatistes. Voilà comment je...
Merci.
je vois la chose.
Une dernière question.
Je peux me tromper.
Un truc quand même pourrait dire sur, parce qu'on parle d'utopie en cinéma de SF, comme on dit au début, les mondes rêvés par la SF sont pratiquement jamais des mondes de rêve. Et l'écart qu'on a entre l'utopie et la contre-utopie, c'est que l'utopie, quand elle a mangé le monde, c'est-à-dire quand on enlève la mer qui nous sépare de ce modèle parfait, là, elle devient contre-utopique. Et pratiquement tous les exemples qu'on va prendre en SF, c'est justement des systèmes qui se sont envahis à l'ensemble de la réalité. Et c'est ce qu'il y a exactement dans Starship Troopers, avec en plus cette dimension métafictionnelle dans Starship Troopers. Mais de toute façon, au cinéma de SF, on parle pratiquement jamais d'utopie au sens propre. À chaque fois qu'on nous présente un idéal, il n'existe pas. Par contre, dans les dernières versions, quand on parlait justement des mondes numériques ou justement de la disparition de la nature ou de leur système matérialisé par la ville, on a ce modèle qui est très prégnant. Je veux dire, dans Brasil, c'est encore un plan d'ensemble qui nous montre que la nature n'est que panneau publicitaire derrière lequel on a le désert. Matrix va le pousser juste un petit degré numérique plus loin, mais pour dire exactement la même chose. Et si on prend Minority Report, c'est justement cette peur de l'envahissement, de cette utopie qui n'est que dans l'État de Washington, qui, horreur, risque de se répandre dans le reste. Et à chaque fois, on a vraiment ce besoin de confinement.
Merci. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis, je ne dis pas l'Amérique, hein, les États-Unis, c'est une utopie qui a réussi d'une certaine façon, et j'écris réussi, bien sûr, avec des guillemets. Il faut concevoir les États-Unis comme une utopie, sinon on ne comprend rien.
Bon, je crois.
Et puis, quand même, ce dernier mot.
Oui, bon.
Ah oui, dis donc, c'est la mienne maintenant.
On est censé. Alors, un dernier mot à Denis.
Oui, je crois qu'en fait, la distinction utopie contre utopie ou utopie-dystopie ne tient pas. C'est la même chose, en fait, une utopie ou une dystopie. Ce sont tout simplement, me semble-t-il, des moyens, des expériences de pensée fictionnelles qui inventent des dispositifs politiques alternatifs et qui confrontent l'idéal du présent, c'est-à-dire dans ce qui nous concerne de la démocratie, puisque c'est l'État dans lequel la plupart de ces textes sont produits, et qui essaye d'expérimenter les limites. C'est là où je rejoins tout à fait Loric sur ce problème-là. Je crois qu'au moment où il est tellement difficile aujourd'hui de penser des modèles alternatifs à la démocratie, et que ceux qui s'y risquent sont immédiatement fustigés d'une volée de bois vert par les médias généralisés de la gauche à la droite, je pense ici à Badiou, à Rancière, à Zizek et à d'autres, les univers de science-fiction, les univers utopiques, dystopiques, permettent justement des configurations fictionnelles dans lesquelles s'inventent les apories, les paradoxes, les risques que la démocratie est en train de produire, que ce soit en termes écologiques, en termes de liberté d'expression, en termes de communication, en termes de politique d'émigration, etc., etc. Et que ce que fait finalement la SF, c'est de jouer d'un effet d'hyperbole dont le pouvoir spectaculaire et dénonciateur attractif auprès du public est très très fort, et elle met littéralement en chantier, sous forme expérimentale et fictionnelle, une forme de radicalisation de ces questions-là. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je reprends l'exemple de Zizek, ça l'intéresse tellement de venir ferrailler avec Matrix, parce qu'il y trouve là un formidable terrain de démonstration pour répondre à la question autour de Starship Trooper. Il trouve un formidable terrain d'exercice paradoxal de la question des médias, de la démocratie et des simulacres. Hein, voilà.
Merci beaucoup, Denis. Bon,
donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, je crois qu'on ne peut pas continuer, malheureusement. Vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je signale simplement à propos des utopies réalisées, enfin, la question que posait des hippies, etc. Je vous recommande un film de Robert Kramer qui s'appelle Milestones, qui montre effectivement des communautés hippies, alors avec tous les problèmes que ça peut poser aussi. Voilà. Merci encore d'être là. Voilà.
Merci à vous. Je vous invite maintenant, si ça vous intéresse, à assister à une nouvelle table ronde sur les extraterrestres. Merci.